Bien bonjour, donc pour la table ronde sur l'anniversaire de la révolution d'octobre, qui est doublement dans la thématique de cette édition, puisque c'est effectivement l'anniversaire et la datation est doublement temporelle, puisqu'elle est sur deux calendriers, le grégorien et le julien. Donc on fait d'une pierre deux coups. Alors, à la table ronde, Patrice Lajoie, spécialiste en mythologie comparée, vous êtes spécialiste notamment des mythologies celtiques et slaves, mais surtout avec Victorina, votre épouse, vous êtes des passeurs de la science-fiction soviétique en France, vous êtes traducteur, vous êtes anthologiste, et vous avez notamment édité, il n'y a pas tellement longtemps, aux éditions Piranha, Étoile Rouge, la littérature de science-fiction soviétique, qui a d'ailleurs valu une très jolie émission chez François Julien dans Mauvais Genre. Denis Bajram, bon, vous présente plus, mais là vous êtes quand même à cette table ronde doublement présent, puisque déjà vous mettez en scène la maximalisation du conflit économique et politique dans Universal War, et puis on en apprend plus en 10 minutes avec vous sur les droits des travailleurs de l'image, notamment en 10 minutes que en plusieurs heures de correspondance avec les institutions. Donc, très important que vous soyez là aussi. Yann, vous êtes de formation philosophique. Notamment, vous avez fait un travail sur l'utopie et vous travaillez dans cette très jolie maison d'édition d'imaginaire qu'est la Talente. Vous êtes l'assistant de Mireille Rivalan et donc vous suivez les ouvrages de leur réception chez l'éditeur à leur arrivée chez le lecteur. Et enfin, Aymeric Sasso, vous êtes élu PCF, vous êtes l'assistant, vous êtes l'adjoint au maire, notamment responsable des questions culturelles et notamment en rapport au livre, à la lecture. Vous animez un blog qui est très fourni en plus, qui est très réactif, très vivant. Et vous êtes aussi l'un des animateurs d'un blog sur la politique et la culture pop, c'est bien ça ? Voilà, qui donc permet de rapprocher les deux de manière plus ludique et informelle. Alors, concernant la révolution d'octobre, on va commencer par quelques dates rapidement qui sont tirées de la révolution de 1917 de Marc Ferro. Donc, quelques dates pour se situer. Le 23 février 1917, bon, l'année va être lourde, l'année 1917 pour la Russie. Le 23 février, c'est l'insurrection de Petrograd. C'est le mois aussi qui voit la création des gardes rouges à Moscou. En mars, on assiste à l'abdication du tsar Nicolas II. Abdication qui d'ailleurs ne provoque pas une véritable réaction dans la presse internationale. C'est étonnant. Elle est actée, mais elle ne donne pas vraiment de conséquences. En avril, Lénine revient en Russie. Au mois de juin va commencer la longue opposition entre Kerensky et les bolcheviks qui se poursuivra tout au long de l'été jusqu'à un mandat d'arrêt qui est lancé début juillet contre Lénine. Suit l'arrivée au pouvoir de Kerensky pendant cette semaine. Alors, déjà, comme on dit, c'est la Kerenshina, le moment de Kerenshina. Donc c'est les sept semaines où Kerensky va détenir le pouvoir sans à peu près de contestation. Au mois d'août, le 26 août, c'est le putsch du général Kornilov. Alors, Kornilov, craignant le chaos, tente un coup d'État, pense avoir le soutien du gouvernement en place qui va le lâcher, donc qui va s'effondrer, ce qui va exacerber une quantité de tensions à la fois militaires, politiques au sein du gouvernement et auprès de l'opposition, quelle qu'elle soit. Le 8 septembre, Trotsky est élu président du Soviet de Petrograd, Soviet qui va commencer à préparer l'insurrection. Au mois de septembre, Kerensky, suite à l'une des nombreuses crises, forme un nouveau gouvernement. Au mois d'octobre, Lénine va à coup d'une correspondance très nourrie, pousser les principaux responsables du mouvement bolchevique à penser l'insurrection. Il va rencontrer des résistances, notamment auprès de Kamenev et Zinoviev. Puis le coup d'État va se faire. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les grandes lignes du coup d'État sont annoncées dans la presse la veille. Ça, c'est très curieux. Comment prendre les postes clés, c'est annoncé. Le coup d'État lui-même, donc ça, on reviendra peut-être sur l'imaginaire de cette révolution, puisque, donc sous réserve de chiffres, on en parlait, il y aurait eu officiellement que 5 morts. Les théâtres sont restés ouverts et les tramways continuaient de circuler. Le coup d'État a donc lieu le 8 octobre. Le 9 octobre, l'Humanité titre coup d'État en Russie, simplement. Et dès le 9 octobre, Lénine se donne 33 heures, c'est un chiffre assez curieux, assez christique, 33 heures pour poser les bases de l'État. Voilà pour les grandes lignes et ce qui s'est à grands traits. Alors, ma première question, et je pense qu'on tout le monde prend la parole, on ne va pas être directif, surtout sur une table ronde comme celle-ci. La première question, c'est comment se fait-il que, et indépendamment de ce qui va suivre dans le siècle, cette révolution a eu autant d'impact sur l'imaginaire, sur la réflexion et sur l'action du monde entier, et bien avant ce qui suivra. Yann, par exemple, les questions.
Probablement parce que c'est en tout cas perçu comme la première réussite, en fait. C'est la première réussite d'une révolution qui va durer dans le temps. La Commune de Paris s'est fait massacrer. La révolution de 1848, au final, a échoué. On est sur une révolution qui semble avoir réussi sur des principes qui animent le cœur des débats à gauche depuis maintenant presque un demi-siècle. Et malgré le fait que cette révolution ne se passe pas au cœur du capitalisme, c'est-à-dire principalement l'Angleterre industrielle et à côté de ça la France et l'Allemagne, ça va probablement générer justement une force, une image de révolution réussie qui devrait être reproduite.
Alors, c'est vrai que justement, c'est la révolution d'octobre, c'est aussi une question d'image. Dès le début, par exemple, Lénine se référait souvent à la Commune. Il paraît-il, en tout cas c'est l'image qu'on en laisse, il serait donné 72 jours, qui sont les 72 jours de la Commune, et paraît-il, le 73e jour, il aurait esquissé un pas de danse pour dire qu'il y a un jour de plus que la Commune. Est-ce qu'il n'y a pas une portée symbolique mais phénoménale dans cette révolution?
Mais je crois que c'est une révolution qui est en adéquation avec son temps. Il y a eu la Révolution française, il y a eu les échecs qui ont été cités. Je rajouterai l'échec de la Révolution irlandaise une année auparavant, au printemps 1916. Et il y a ce rêve un peu fou qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature russe auparavant, qui parle beaucoup du petit peuple, entre guillemets, bien que je considère qu'il n'y ait pas de petit peuple, mais en tout cas les Tolstoï, les Gorki, qui ont beaucoup écrit sur ce peuple russe, et qui peut, du jour au lendemain, prendre le pouvoir après la révolution industrielle. Dans un moment, comme la révolution française a été la suite logique d'un moment d'accroissement des connaissances, de recherche intense, on arrive après la révolution industrielle, et on imagine que des ouvriers peuvent gouverner, que les soldats qui meurent au front, parce que je crois qu'on ne comprend pas pourquoi octobre réussit si on ne traite pas de la question de la paix, de cette grande guerre qui apparaît comme une grande boucherie où les travailleurs meurent au front tandis que d'autres ne se battent pas. Kerensky est le ministre de l'armée en février. Il est l'auteur d'une grande offensive qui échoue lamentablement, pendant qu'on transfère toutes les œuvres d'art de Pétersbourg à Moscou, puisqu'elle était accessible par par bateau et que on imaginait déjà la défaite. Donc il y a une espèce de crépuscule qui s'éteint peu à peu, puis la révolution d'octobre qui arrive et qui a une force propulsive et transgressive qui est complètement exceptionnelle. C'est la révolution du XXe siècle.
Ah, c'est la révolution du XXe siècle et on aura l'occasion de l'aborder sous plusieurs angles, mais c'est d'abord c'est aussi une révolution russe. Et Patrice, en quoi vous reconnaissez des éléments russes dans cette insurrection, dans ce coup d'État? Docteur, par exemple, vous l'avez évoqué, il y a la guerre, il y a un tiraillement à ce moment-là dans le peuple russe entre est-ce qu'il faut protéger la patrie ou au contraire conduire le mouvement. En quoi y a-t-il un élément culturel russe dans ce fait précis?
Élément culturel, je ne sais pas. Élément intellectuel, oui, parce que cette révolution, elle est préparée depuis des décennies, en fait. Il y a quand même l'épisode de 1905 qui a été important et qui a eu d'ailleurs déjà au niveau international un impact très très fort. Quand le cuirassé du Potemkin s'est révolté, toute la presse européenne et même au-delà, on en parlait au Japon, on en parlait aux États-Unis, a suivi ça au jour le jour. La révolte d'Odessa avec son siège en juin-juillet 1905 a été déjà un événement particulièrement important. Ensuite, il y a une image du révolutionnaire russe qui existait déjà avant, une image presque romantique. Certes, c'était une image un peu floue où on mélangeait tous les courants politiques dans un même sac. On parlait des nihilistes russes, qu'ils soient socialistes ou pas, peu importe. Mais voilà, l'étudiant poseur de bombes, prêt à mourir pour sa cause. Cette image, elle existe et en Russie même. Il y a des magnifiques nouvelles de Mireille Artsibachev à ce sujet. Et à l'extérieur. Et elle fascine. Elle fascine même les adversaires du marxisme qui voient là-dedans quelque chose de dangereux, d'important, mais en même temps de fascinant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on le disait à mot couvert tout à l'heure, quand le tsar abdique, le fruit est mûr, en fait, tout bêtement. Donc, au niveau international, on n'en parle pas plus que ça. C'est vrai. C'est presque naturel, on l'attendait depuis 1905. Mais par contre, oui, le coup d'État d'octobre, lui, est l'étape finale. Et donc, cette sorte de conclusion d'une espèce de quête romantique. Je parle là encore d'une espèce de fantasme de l'imaginaire de l'époque qui s'achève. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment, mais c'est peut-être là que se trouve le marqueur spécifique de cette révolution russe. Parce que c'est quelque chose qui s'est préparé sur le très long terme avec des prédécesseurs, les grands penseurs, que ce soit de l'anarchisme ou du socialisme, se trouvent en Russie depuis déjà 25-30 ans, en fait, et en France. Donc c'est pas vraiment une surprise, cette révolution. Elle est décevante pour les alliés occidentaux, mais ça n'est pas une surprise. Et elle est accueillie favorablement, évidemment, par plein de gens partout. Le tsar est un archaïsme.
C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est cet accueil unanime que dans toutes les sphères, aussi bien populaire qu'intellectuel. Donc, j'aime pas trop la distinction, c'est pour faire vite. Et puis, il y a une image de la révolution qui se crée, même au sens littéral. Alors, Denis, ça va être un bouleversement, même graphique, qui va rejaillir sur tout le XXe siècle, l'image héritée de la révolution.
On est quand même dans l'époque des avant-gardes, hein, depuis quelques décennies. Énormément d'artistes sont en train de... Les jeunes générations d'artistes qui arrivent sont toujours dans cette idée un peu de la révolution permanente en art. L'idée de rupture, l'idée de révolution est hyper présente depuis plusieurs décennies. Ça a commencé vraiment avec le Salon des Refusés à l'époque des impressionnistes, mais voilà, c'est quelque chose d'ancré. Et on va voir les révolutions artistiques se répéter pendant toute la première partie du XXe siècle. Donc en fait, les artistes sont prêts. Ils attendent ça, qu'un pays le fasse, et surtout un pays d'arriéré au niveau politique, parce que c'est vraiment la vision là, est partagée sur le fait que c'est un des derniers morceaux du Moyen-Âge qui traîne là à l'Est et qu'il est temps de s'en débarrasser. Donc tout de suite, il y a une énorme partie de la sphère artistique, des peintres, etc., qui se tournent vers ce pays, qui est en plus un pays qui vient de nourrir depuis quelques décennies aussi la culture, en France particulièrement, par la musique. La présence de l'école russe en musique a été prodigieuse. Les écrivains qui ont été extrêmement observés et les peintres. Donc on est voilà, le lien est là, les gens sont prêts. Et alors, en plus, on est à ce moment-là de la mise en place de la modernité dans l'art aussi en termes de typographie, de tas de choses comme ça. Donc il y a une première synthèse qui se fait autour de cette révolution, qui est une synthèse hyper moderniste, très graphique, très forte, tout de suite. Qui va après avoir du mal à s'imposer finalement dans le régime socialiste russe, mais qui, dans les premiers temps, tout le monde se retrouve autour de ça. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont donner plus tard l'extrême droite française, qui au contraire se braquent complètement, permettant aux écrivains, aux peintres français de se reconnaître totalement dans cette révolution, puisque justement ils ont leurs ennemis catholiques et compagnie qui sont justement en train de s'énerver. Donc tout va parfaitement. Il y a un jeu de rôle là qui se met en place qui est assez étonnant et qui ne va pas durer parce que va y avoir très très vite en Russie un certain refus de cette modernité-là, justement. C'est-à-dire que il y a toujours dans les pays qui deviennent totalitaires une peur de cette révolution permanente. Donc cet art d'avant-garde où chaque génération donne tort à la précédente et les générations durent 5 ans parfois, est un art dangereux pour un pays qui veut imposer une norme. Et c'est pour ça que la Russie, comme le fera en mille fois pire l'Allemagne plus tard, bloquera un peu ce jeu des avant-gardes assez rapidement. Mais au début, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et on voit, on a le pendant de y a quand même aussi les gens qui refusent ça, hein, Dada, etc., qui ne veulent pas du tout rentrer dans cet esprit de la révolution russe, qui essaye de revendiquer, dans ce cas-là, un nihilisme quasiment à la française, détaché de cette révolution qui est trop progressiste, trop construite par certains côtés anti-artistique, au sens où c'est le peuple qui prend le dessus et l'art est au service du peuple et pas le peuple au service de l'art.
Émeric ?
Oui. Plusieurs choses. D'abord, la Révolution est quand même accueillie très fraîchement, comme au temps de la Révolution française où toutes les royautés d'Europe sont tombées sur la France, il y a quand même une réaction de tous les gouvernements libéraux de l'époque qui vont attaquer ou financer les contre-révolutionnaires. Deuxièmement, tout est en écho un peu de manière décousue, il y a une fascination pour cette mode de prise de pouvoir, mais Lénine est un philosophe de l'action. Il est lui-même traumatisé par la mort de son frère pendu pour avoir ourdi un complot contre le tsar. Donc il faut toujours aller très vite. Il dit « le temps n'attend pas » pour rester dans le thème de ces utopiales. Donc il y a une méthodologie révolutionnaire clé en main et une mise en scène de cette possibilité de prise de pouvoir, comme plus tard, par exemple, la révolution cubaine et Che Guevara constitueront une autre mythologie de la prise de pouvoir. Et par écho à ce que vient de dire Denis, il y a ce mouvement de balancier entre révolution et contre-révolution dans toutes les révolutions de l'histoire. On a des moments d'une liberté absolue à la Révolution française, puis on a Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage parmi d'autres éléments. On a un moment de grande liberté à Moscou, le nombre de pièces de théâtre décuple et de théâtres qui s'ouvrent décuple pendant ces années de révolution. On a Mayakovsky qui fait le tour du monde pour parler d'aller décrocher les étoiles et qui finit par se tirer une balle dans le cœur. Dans ce qu'il laisse comme écrit, on ne peut pas tirer de conclusion politique, mais il se tire une balle dans le cœur et ça reste un symbole fort. Il y a Malevitch qui ne dit pas de mal du régime, mais qui dit que la paresse doit être la vérité effective dans un pays qui s'apprête à devenir stakhanoviste. C'est assez fraîchement reçu. Et il y a Staline qui arrive là-dessus et qui remet des règles et re-encadre la société russe sur un thème plus traditionnel. Le parallèle entre Staline et Napoléon, les deux font un code civil, alors même qu'on a pour la première fois une sexualité assez libre et une homosexualité assez répandue et plus ou moins reconnue en Union soviétique. Et on a Alexandra Kollontai qui, dès 1924, dit des choses d'une extrême justesse qui pourrait même faire écho à ce qu'on vit en ce moment avec les appeurs Weiner, MeToo, Balance ton porc, etc., et qui dit que l'entrée des femmes dans la production et au travail ne les émancipe visiblement pas des dominations qu'elles vivent dans l'État et dans la famille. Et puis donc on a ce code civil qui vient après, et on a toujours ces mouvements de balancier, et l'imaginaire qui reste, et la, la, l'énergie, la force propulsive d'un idéal qui est à peu près sans limite et qui déplace l'horizon de l'humanité absolument sans limite. C'est ce qu'on verra après dans la conquête de l'espace et tout ce genre de choses.
Alors, avant d'en arriver justement à cet imaginaire proprement soviétique, vous l'avez évoqué, il y a une réaction. Et en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que, alors, sauf erreur de ma part, il y a peu dans la science-fiction de l'Ouest d'Union soviétique mise en scène de manière positive. J'ai guère vu que Terra Plane de Japomak ou alors Back in the USSA de Kim Newman qui imagine que la révolution a lieu aux États-Unis. Par contre, il y a une réaction à la révolution soviétique qui va être très très forte aux États-Unis dans la science-fiction américaine. Yann ?
Bah oui, la SF américaine, si elle ne met pas en scène une Union soviétique positive, elle n'en parle pas. Comme ça, pour pas se positionner. Et de l'autre côté, il est aisé, par contre, de trouver des exemples où on va remplacer le soviétique par n'importe quelle créature qu'il faudra défaire et lui allier les idéologies caricaturées qu'on pouvait dépeindre. C'était quelque chose d'assez aisé et de pratique pour faire passer un message. Nous sommes les gentils, c'est les méchants. Enfin, c'était très simple et très, très efficace au final.
Justement, on évoquait en préparant cette émission la fortune étrange qu'a eue la révolution soviétique dans la bande dessinée, depuis son alpha avec Hergé à son oméga. Vous l'évoquiez en préparant l'émission.
Oui, bon, on a quand même Tintin au pays des soviets, qui est un brûlot extrêmement mal informé sur ce qui se passe en Russie à l'époque. Tintin, c'est quand même le fondateur de la bande dessinée franco-belge pour beaucoup de gens, même s'il a eu beaucoup de prédécesseurs. Et c'est un album que Hergé lui-même va finalement refuser de voir republier très longtemps, parce qu'il en connaît toute la vacuité, hein, même s'il n'est jamais devenu pro-soviétique, je pense. Mais on a quand même des scènes complètement ahurissantes pour ceux qui ne l'ont pas lu, où Tintin visite la Russie. Il y a des fausses usines carrément fabriquées à la Potemkin pour faire croire qu'il y a de l'activité industrielle avec des gens qui tapent des casseroles derrière les faux décors pour faire croire que la Russie va bien. Enfin, c'est des caricatures de cet ordre-là. Et Hergé, qui derrière a essayé d'être plus fin dans les voyages qu'il a fait faire à Tintin après, s'est refusé à ce que cet album. Et alors on a cet album-là, et puis de l'autre côté, on a un album d'une extrême importance qui est Partie de chasse de Christin et Bilal, qui est vraiment un album clé dans l'histoire de la bande dessinée, parce que c'est l'album du sérieux de la bande dessinée par beaucoup de côtés, et d'autant plus que dedans, il y a un pronostic avancé sur l'état de décrépitude de l'appareil soviétique, en fait, avec où on y voit des dirigeants qui viennent de tout le pacte de Varsovie, et dont plus aucun ne croit au régime politique dans lequel ils sont. Ils font au mieux semblant. Et ils sont tous des vieux, et finalement le Brejnev du livre va finir par mourir dans cette partie de chasse, et on y voit la déliquescence vraiment d'un régime dont les élites en fait ont complètement perdu le contact avec les buts initiaux. Et à l'époque où ils écrivent ce livre-là, c'est pas un discours très bien accepté obligatoirement, hein, parce qu'il y a toujours, on épargne. Alors il y a la droite qui tape, hein, depuis tout le temps, mais dans les milieux intellectuels, on épargne toujours un petit peu la Russie parce que
encore à l'époque.
Oui, parce qu'on a du mal à imaginer que le système en face soit tellement meilleur. Donc c'est toujours l'extrême. Il n'y a pas une envie de taper là-dessus. Surtout qu'en plus la Russie à cette époque-là a quand même fait le travail de déstalinisation, etc. Donc il y a une partie des. Bon, alors c'est loin d'être parfait. Et ce livre montre de manière non pas politique, mais de manière très humaine en fait, très simple, la déliquescence d'un système, et est assez étonnant. Et c'est le dernier livre qu'ils ont fait en collaboration, ces deux auteurs-là, avant que Bilal ait fait un autre récit qui est La Force Immortelle, qui est a priori de la science-fiction quasi délirant, puisqu'il y a quand même des dieux égyptiens qui viennent sur Terre, mais qui se conclut quand même, encore une fois, sur cette fable du communisme, puisque le régime, qui est clairement un régime d'extrême droite religieux qui règne sur Paris à ce moment-là, bascule à la fin dans un régime émancipateur, parce que les femmes ont enfin le droit de faire de la politique, on s'en aperçoit, avec des cheveux qui sont rouges, hein, que le détail ne trompe pas. De la même manière que les envahisseurs dans David Vincent, quand ils se dissolvent en rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour les gens qui n'auraient pas compris que c'est la cinquième colonne soviétique, le détail est clair comme ça. Donc voilà, on est dans la bande dessinée vraiment sur deux. Et il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Parce que c'est une littérature jeunesse, longtemps. Donc on ne va pas parler de ces problèmes-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre, entre autres, et de manière très étonnante, dans PIF, qui est une publication du Parti communiste, à l'époque, et qui a des récits remplis d'humanité, mais sans contenu politique réel. C'est-à-dire, c'est de l'humanisme complet. On y défend des valeurs du bien collectif, mais pas le collectivisme, par exemple. Donc l'étape qui aurait été visiblement plus socialiste n'est quasiment jamais franchie. Et finalement, même quand on regarde des publications qui pourraient être faites par le milieu plus catholique en face, dont une partie des publications ne sont pas du tout marquées non plus religieuses, elles ne sont pas tellement différentes sur les valeurs. Donc ça, c'est très étonnant de voir que la bande dessinée a échappé à cette éducation politique qui aurait pu être faite par là. Hein. Rien ne les empêchait de faire de la politique en bande dessinée, ces auteurs-là. Et rien n'aurait empêché les catholiques comme les communistes de faire ce choix-là. Surtout qu'ils avaient passé un accord tacite au sortir de la guerre pour mettre en place la loi sur les lectures de la jeunesse de 45 ou 49, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui avait pas pour but de protéger la jeunesse, mais pour but de protéger le pays des comics américains qui étaient en train de l'envahir à ce moment-là. Et en mettant en place une commission de censure et de contrôle, et la bande américaine à l'époque était très d'aventure avec des monstres, des pistolets, des machins, en interdisant tous ces genres de représentations de violence, ils ont complètement bloqué l'arrivée de la bande dessinée américaine sur le territoire français. Et donc, les communistes et les catholiques s'étaient quand même alliés pour faire ça, la faucille et le goupillon, aurait chanté Ferrat. C'est très étonnant quand même. Et je pense que quelque part, le fait qu'il n'y ait pas eu de politisation très forte de cette bande dessinée destinée à la jeunesse vient de là. C'est qu'il y a un accord tacite, jamais sans doute formulé, de non-agression sur ce terrain-là. On apprend des valeurs humanistes, les valeurs humanistes partagées, hein, d'un milieu catholique progressiste et du Parti communiste. Et puis... quand ils sont adultes, on fera la bataille. Voilà. Ça bascule dans les années 70 avec Pilote, etc., où là, d'un seul coup, les auteurs décident de parler aux adultes et donc on va commencer à voir arriver des contenus politiques. Et c'est vraiment Partie de chasse qui est le moment où la bande dessinée grand public assume totalement son droit à parler du fait politique fort et à commenter ce qui est devenu le régime soviétique. Quoi.
Peut-être juste une réaction par rapport à ça. D'abord, rappeler que Tito, son père, Tito, Bilal, le père de Bilal, était le tailleur de Tito, donc fils d'un proche, oui, voilà, bon, en tout cas, mais dans un pays à la fois communiste et non aligné. Bon, donc il a une relation très ambivalente, mais c'est vrai que c'est une des BD les plus fines sur ce qu'on peut écrire à cette époque-là, où quand même la désillusion était bien là, parce que c'était Brejnev, c'était la fin, là aussi c'était un peu crépusculaire, la dernière décennie avec la succession de vieillards malades à la tête de l'Union soviétique n'était pas brillante, et donc on était dans cette période-là, avec des communistes européens, et c'était ça ma réaction, qui travaillaient sur l'eurocommunisme, une forme de rupture avec l'URSS, Berlinguer en Italie disant que la force propulsive de la révolution russe a été perdue, donc c'était le fil conducteur de notre histoire depuis le début, et les communistes français, les communistes occidentaux, en tout cas en France et en Italie, ont dû chercher d'autres méthodes que celle de la figure du prolétariat prenant le palais d'hiver pour accéder au pouvoir. Donc il y a eu le Front populaire, il y a eu la main tendue aux catholiques, il y a eu la résistance avec cette grande union nationale de droite à gauche face à l'envahisseur. Et dans le domaine culturel, je serais un peu moins catégorique que Denis, d'abord parce que je crois que plus que Karl Marx, Pif et Rahan ont forgé mon caractère politique. Donc je crois qu'il y avait là quand même des valeurs assez fortes, et on construisait une contre-société, c'est-à-dire les gentils devenaient les méchants, c'était les sans-culottes, c'était le gamin de la rue, c'était les indiens les gentils, alors qu'on voyait des cow-boys gentils à la télé. Et il y a eu, chez les communistes français, ça explique peut-être les limites que tu donnes sur l'idée qu'il fallait construire une contre-société à l'intérieur de la société française et en prenant en compte la société française. Donc il n'y a plus la chute du palais d'hiver, c'est plus cette méthode révolutionnaire qu'il faut faire, c'est faire contre-société avec des organisations de jeunesse, avec la presse, etc.
Petit détail, dans ma famille, on ramenait quand même pas Pif Gadget parce que pas de lecture communiste. Hein. Donc les gens savaient hein, tout de même, c'est ça qui est amusant. Hein.
Toujours su que tu avais une enfance difficile.
Oui, mais des parents adorables.
Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que dans Pif Gadget, il y a l'adaptation BD d'Amical Manvaut, qui sont quand même deux milliardaires, certes redresseurs de tort, mais deux milliardaires dont un aristocrate quand même. Alors concernant Patrice...
Oui, juste deux petites remarques en fait. On parlait des villages Potemkin tout à l'heure. C'est certainement dans les années 70 et 80 qu'ils ont existé, en fin de compte. Parce que les touristes qui se rendent en URSS ne peuvent pas aller partout. Et ils ne voient pas les magasins ordinaires des soviétiques, parce que dès la fin des années 70, les magasins sont vides. Par contre, les magasins pour touristes, hein, le GUM à Moscou, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est approvisionné. Donc les touristes, et notamment les touristes communistes qui se rendent en URSS à cette époque, ne voient pas le quotidien de l'URSS. Là, on retombe sur ce que faisait Hergé dans son premier album de Tintin. De son temps à lui, ça n'existait pas. Par contre, bien plus tard, ça a existé. Sinon, je voulais revenir sur la question du fait que dans la science-fiction occidentale, finalement, les soviétiques apparaissent assez peu, ou alors de façon déguisée. Bah, dans la science-fiction soviétique, l'inverse est exactement vrai. On a, dans les années 20 et 30, des méchants capitalistes, mais parce qu'on a de la science-fiction à très courte visée, où des inventeurs soviétiques inventent des choses qui vont sauver l'humanité, et des méchants espions capitalistes s'acharnent pour aller leur voler leur travail ou le détruire, parce que c'est pas bon. On ne peut pas faire de l'argent avec, donc c'est pas bon. Mais après ça... au moment notamment où arrive ce qu'on a appelé plus tard l'âge d'or de la science-fiction soviétique, les questions conflictuelles avec le monde capitaliste disparaissent, presque totalement. On fait des romans qui se passent au temps de l'avenir radieux, et donc la question ne se pose plus. La question du cheminement entre l'époque du XXe siècle, qui est conflictuelle, et l'avenir radieux n'est pas posée. On y arrivera, quoi qu'il en soit. Alors on a quelques petits trucs quand même. Il y a un roman d'Alexandre Kazantsev qui s'appelle Plus fort que le temps, ou qui s'ouvre par l'idée que ça y est, le dernier conflit a pris fin et l'utopie communiste est installée. C'est tout, trois lignes. Les seuls à avoir osé rentrer dans les détails, c'est les frères Strougatsky, avec une trilogie qui n'est qu'à moitié, à moitié traduite en français, qui a pour personnage un cosmonaute qui s'appelle Ivan Jilin, et qui nous montre une coexistence pacifique au XXIe siècle entre les États capitalistes et les États soviétiques. Mais il nous montre aussi que la petite bourgeoisie arrive à son dernier stade de vie et que tout ça va s'effondrer pacifiquement, tout seul. Et puis c'est tout. Et donc le XXIe siècle, qui est pour eux l'avenir radieux, se mettra en place sans conflit. Il n'y a même pas question de guerre. Le seul moment où ils envisagent ça, c'est quand dans un autre roman qui s'appelle « Le lundi commence le samedi », qui est un roman satirique, humoristique, ils imaginent un centre scientifique où on invente tout un tas de trucs complètement débiles. Il n'y a pas d'autre mot. Et parmi les trucs débiles, il y a une machine à voyager dans le temps, mais qui fonctionne sur la base des romans de science-fiction. Autrement dit, on alimente la machine avec les romans de science-fiction et la machine explore le futur. Et donc le narrateur s'installe dessus, de mémoire ça ressemble à une espèce de bicyclette, ouais. Et il est propulsé dans le futur, mais qui est celui de la science-fiction soviétique. Tout est rose, c'est magnifique, on a des superbes héros qui s'en vont à la conquête de l'espace, mais une conquête pacifique évidemment, tout est bien, il s'ennuie profondément. mais sur un côté, il y a un mur d'acier. Et au-delà du mur d'acier, des tas d'explosions. Alors, il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et puis finalement, quand il arrive très très loin dans le futur, où là vraiment c'est soporifique au possible, il y a une porte. Et il franchit la porte, et là il tombe sur un type qui est dans une tranchée, ça explose de partout, et le type lui explique, alors là-bas les extraterrestres ont débarqué, ici les robots se sont révoltés, là on est en guerre contre les socialistes, et en fait c'est la science-fiction occidentale. Voilà, les quelques rares allusions finalement à des situations conflictuelles. Donc l'inverse est vrai, en quelque sorte. On ne parle pas de l'adversaire. On évite d'en parler. Ou alors, en se moquant un petit peu, mais ça reste discret. Il est préférable de dévoiler l'avenir à Dieu plutôt qu'autre chose.
Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi ces passions il y demeurait quand même, par exemple, des tentations métaphysiques dans la science-fiction soviétique?
Oui. Oui, oui, comme dans toute science-fiction, mais ça, c'est un vieux débat qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années maintenant en France. Mais oui, parce que, évidemment, c'est une science-fiction qui fonctionne à plein sur des concepts philosophiques déjà. Parce que, de toute façon, c'est une littérature qui est assez différente dans sa base par rapport à la littérature de science-fiction occidentale. Parce que la science-fiction soviétique, c'est une littérature qui doit être éducative. Et donc, on doit y traiter des grands concepts, y compris métaphysiques, y compris ce qui peut se passer après la mort, y compris ce qui peut se passer quand on transforme complètement l'homme en lui changeant totalement son corps. Dans ce cas-là, on ne va pas tant s'intéresser aux superbes capacités que cet homme va obtenir, mais à ses changements de mentalité. On s'intéresse parfois à Dieu. C'est pas fréquent, mais là on sent l'influence de Stanislav Lem, notamment. C'est une science-fiction qui, pas simplement métaphysique, mais qui peut être très très philosophique. Ouais, ça c'est sûr.
Moi je sais que adolescent, j'ai compris la prise de pouvoir par les SA et pas par les SS. Hein. En lisant, il est difficile d'être un dieu des frères Sugarsky, quoi.
Ah bah totalement.
Et la description est d'une remarquable finesse et tout est explicite alors qu'on a l'impression de lire un roman qui se passe très loin. Et je sais qu'à un moment, j'ai fini par comprendre de quoi il me parlait, mais c'était, en termes éducatifs, c'est en effet prodigieux. Quoi.
C'est exactement ça. C'est la petite bourgeoisie qui paye une milice grise qui éradique toute forme d'érudition, de savoir, parce que c'est prétentieux, ça ne sert à rien, on ne fait pas d'argent avec, et qui finalement est remplacée totalement par un grand massacre, par une milice noire, qui est la SS.
Voilà, qui est la SS, et ça se termine avec la SS. Et on a ces observateurs astronautes russes, j'imagine, mais c'est même pas dit qu'ils sont les sages, qui finalement se retrouvent en position un peu divine à observer ça sans pouvoir intervenir. Ce qui est astucieux, c'est que c'est présenté comme un monde médiéval au départ.
Oui.
Donc on pense pas du tout être en train d'observer des soviétiques en train de dire l'ennemi fasciste, etc. Il y a une finesse comme ça dans la manière de dénoncer le camp d'en face dans ce qu'il a de pire, quoi.
Mais ça, en fait, c'est une dénonciation qui peut s'appliquer aussi à l'URSS. Parce que, quelque part, à mot couvert, on a les purges staliniennes qui sont placées dessous aussi. Hein.
Ils ont eu des ennuis ?
Oui, bien sûr. Mais des ennuis qui ne sont pas d'ordre judiciaire. Et ils ont eu des ennuis, avec des éditeurs qui ont refusé de faire paraître leurs romans. Donc pour eux, pendant les années 70, donc après il est difficile d'être un dieu, mais pas seulement, faire paraître un roman, ça prenait 4, 5, 6, voire 8 ans, à force d'aller-retour avec l'éditeur qui disait ça, attention, non, c'est limite. Là, le héros, il parle de façon un peu trop outrancière, il dit des gros mots, c'est pas bien. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais ceci dit, ils reviennent sur le même sujet avec un observateur de cet univers communiste sur un monde qu'on va qualifier de fasciste, là, clairement, avec l'île habitée. Où là, c'est dans les termes employés, c'est le monde qui est exploré par le personnage principal, c'est un monde fasciste. Nazi, même, on peut le dire. Ceci dit, c'est un avis personnel, hein, mais c'est un roman qui s'appuie sur un autre texte d'Abraham Terz, qui est paru en sa mise date en France et qui, lui, par contre, est anti-soviétique, puisqu'on y retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire une société qui est complètement contrôlée par des ondes. Les esprits des gens sont contrôlés par des émissions d'ondes et avec à la tête une poignée de personnes qui, eux, échappent à ça et qui dirigent tout et qui sont en conflit avec l'extérieur. C'est là-dedans que les frères Strugatsky développent la doctrine. Quand tu as des ennuis à l'intérieur, bah, crée-toi des ennemis à l'extérieur. Donc on a à chaque fois un double langage. Ce sont des fascistes, des capitalistes, des petits bourgeois qui sont là-dedans, mais en même temps, ils ont déjà un regard très très critique sur l'intérieur. C'est ce qui leur permet de passer à travers les mailles, hein, d'être publiés malgré tout, parce que ben, ils disent non, c'est des fascistes. En fin de compte, c'est toute forme de domination dictatoriale.
Et Yann, vous évoquiez en préparant l'émission le fait que la révolution d'octobre et ses conséquences, ce clash cette fois-ci total affirmé entre l'économique et le politique a même, selon vous, structuré l'imaginaire de la science-fiction mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre la politique et la fiction.
Bah, je ne sais pas si, si elle a structuré l'imaginaire de la science-fiction.
Elle l'a déterminé.
Mais en fait, forcément, elle va y participer parce que si on regarde quel est le travail de... quel est l'effet de la science-fiction, c'est au final de désacraliser des structures, des avenirs. Frédéric Jameson parle d'archéologie du futur, essayer de comprendre où est-ce qu'on peut aller avec certains concepts, et du coup de les désacraliser. Et dans une science-fiction politique, on est toujours dans une désacralisation. Et du coup, on essaye d'y voir une structure que, dans notre société, on va considérer comme sacrée. Parce que c'est un sociologue comme Luc Boltanski qui va parler de théologie même sans Dieu. Du coup, dans ces avenirs-là, on va regarder si ces structures sont toujours efficaces, si on les transporte autre part que dans la société dans laquelle on la considère comme sacrée. Est-ce qu'on considère toujours comme pertinent de voir la justice telle qu'on la rend chez nous être rendue de façon similaire dans 2000 ans au sein d'une fédération galactique? J'en suis pas sûr. Je ne sais pas si on trouvera toujours pertinent d'appeler un juge votre honneur ou un avocat maître. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que en fait, en re-regardant avec 2000 ans en avance, en regardant ce procès que nous, on peut connaître actuellement, est-ce qu'on ne dira pas qu'en fait, c'était barbare? C'était de l'idéologie, c'était du religieux, en fait. On a placé du sacré dans du politique, on l'a regardé. Et du coup, comme la science-fiction va toujours chercher ces structures sacrées pour essayer de voir jusqu'où on peut les mener, la révolution en sera toujours une. Et quand on pense à la révolution, on pense toujours à la révolution d'octobre. On peut penser aussi à la révolution à la Révolution française, mais au final, quand on parle de révolution face à l'État que nous connaissons actuellement, on parle toujours de celle que l'on a connue, la Révolution française. On a toujours besoin de rajouter quelque chose, alors que lorsque l'on parle de la Révolution, les gens ont immédiatement en tête des prolétaires russes qui courent dans les rues et qui vont se passer des fusils, en fait. Immédiatement. Et du coup, c'est comme ça qu'elle forme un imaginaire entier.
Oui, ben, d'abord, il a été travaillé cet imaginaire avec des films. On en parlait hier, mais il y a, à mon avis, deux films qui ont révolutionné le cinéma. C'est Eisenstein pour l'ensemble de son œuvre, mais particulièrement pour Octobre, dont il paraît qu'il y aurait eu plus de morts dans le tournage du film que pendant la révolution elle-même, puisqu'il y a eu des milliers de figurants et que les conditions de sécurité en 25, 26, 26 je crois, puisque c'était pour l'anniversaire, les 10 ans de la Révolution russe, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on a ça, et puis de l'autre côté, Naissance d'une nation de Griffith, qui est un film pro Ku Klux Klan, mais qui est une œuvre majeure du cinéma, si on fait abstraction de ce côté un petit peu dérangeant quand même, et au niveau de l'image. Mais je pense que Naissance d'une nation a aussi fondé un imaginaire qui arrive à l'élection de Trump aujourd'hui, et de la même manière qu'on a construit cet imaginaire. Je reviens deux secondes à la question un peu métaphysique, mais alors que Marx parle de philosophie, décrit le capitalisme, on a quand même affaire à une pensée très scientifique qui a structuré tous les mouvements d'idées du XXe siècle, de l'histoire à une partie des sciences et tout ça. C'est pour ça qu'on arrive rapidement au sujet science et fiction qui nous intéresse. Mais Marx n'est pas du tout, enfin, à la fin de sa théorie philosophique, on est tous des producteurs libres, émancipés du salariat. On peut être agriculteur le matin et auteur de science-fiction l'après-midi, et tout va bien. Mais on reste des hommes. Et peu à peu, il y a cette affaire de Stakhanov qui arrive à construire plus qu'on pourrait tous le faire dans la pièce en une journée. Il y a Gagarine qui est présenté comme un surhomme, qui d'ailleurs, dans les biographies qu'on a lues, le vit plutôt mal. Tourmenté, déprimé, obligé de faire trois fois le tour du monde et d'aller inaugurer toutes les cités Gagarine de la banlieue parisienne. Mais moi, ça me fait toujours rêver quand j'arrive dans une cité Gagarine. En tout cas, voilà. Et puis Che Guevara qui, lui, va jusqu'à dire « Mais si on n'a pas pour l'ambition de construire un homme nouveau, on ne sert à rien et le communisme va échouer. » Donc il s'agit de transformer l'homme lui-même. Et là, il y a un caractère à la fois métaphysique, peut-être un peu flippant, ou en tout cas... Bon, on peut reconnaître à Che Guevara d'avoir essayé de mener l'expérience jusqu'au sacrifice, jusqu'à aller travailler lui-même dans les champs, et à avoir tout. Et puis à chaque fois, il y a cette ambivalence, parce que pendant qu'on présente cet homme nouveau, il y a la réalité du régime qui devient peu à peu tout autre, il y a la bureaucratie. Une anecdote pour finir, mais quand Ho Chi Minh, qui a refusé de vivre à Hanoï dans le palais du gouverneur, il s'est installé dans la petite résidence de l'électricien, puis il a fait construire une toute petite maison en bois avec un bureau, une chambre, et en bas, sous les pilotis, une salle de réunion pour travailler près de l'étang. Et puis, il a reçu les dignitaires soviétiques dans sa petite maison d'électricien. Et les mecs, ils sont partis traumatisés dans l'avion en disant « Mais vous vous rendez compte ? Il nous reçoit dans la maison de l'électricien. Soit il nous méprise, soit il vit vraiment là, et c'est encore pire, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de nous avec nos datchas ?» Et donc, il y a toujours cette ambiguïté-là dans ces combats de tout un siècle.
Mais il y a une opposition avec justement ce que tu disais sur la science-fiction soviétique qui a pour objectif de montrer l'avenir radieux et une visée éducative. C'est que c'est quelque chose que Marx refuse, montrer l'avenir du communisme, parce qu'en fait, enfin, personne ne peut le connaître tant qu'on n'y advient pas. Le communisme est une critique. Il est toujours en posture critique et du coup il doit toujours se poser la question de vers où il va, est-ce que sa théorie est toujours bonne, et du coup voir que au final le résultat du soviétisme via la SF de l'avenir radieux, par exemple, en fait c'est le dogmatisme, c'est l'avenir radieux, en fait on pense qu'il sera comme ça et du coup on va essayer d'aller vers là. Donc on peut mettre des outils pratiques, politiques de domination actuellement, parce qu'en fait on va arriver là, regardez, ça va être bien, mais c'est au final oublier que à la base de la théorie marxiste, c'est la critique qui est importante, c'est le fait de toujours remettre en question les idées qu'on a posées, l'analyse que l'on est en train de créer, et surtout de ne jamais rentrer dans une vision prophétique de ce qu'est le communisme, d'aller dire l'avenir sera ainsi. Et je trouvais ça...
Mais ça a été justement l'un des objets du grand débat qui a secoué la science-fiction soviétique à la fin des années 60, qui est un débat qui a été public, qui a été fait par le biais de conférences, d'articles dans la Pravda, dans Litteraturnaya Gazeta, enfin dans la très grande presse, hein. On imagine mal un débat sur la science-fiction dans le monde à la même époque, hein. Et donc le cœur du propos, c'était de savoir, mais de quoi on parle ?
justement. Est-ce qu'on va parler du futur tel qu'il sera, communiste, parfait, génial, avec l'homo soviéticus idéal, ou est-ce qu'on va parler des moyens d'y arriver? Et c'est là que ça s'est battu, justement, parce que il y a eu deux clans qui se sont formés. L'un des deux prônait une stricte idéologie communiste, et donc tout ira tel que ça a été prévu par le plan quinquennal, et on y arrivera, et le plus vite possible. Et puis d'autres qui disent, on va y arriver, oui, mais à quel prix? Et donc, ils estimaient qu'ils avaient le droit de parler dans leur récit d'échecs, donc de sociétés qui auront essayé, mais qui vont se planter. Et ça, c'était totalement, finalement, inadmissible auprès des éditeurs en place à l'époque, parce qu'à l'époque, la science-fiction était éditée par des éditeurs pour enfants ou pour adolescents. Même si on y publiait des romans extrêmement adultes, mais voilà. Et donc, en définitive, ce qu'on a appelé les lyriques, donc ceux qui étaient les tenants, justement, de la description du chemin et non pas de l'objectif atteint, ont perdu. Et là, on est rentré clairement dans le dogmatisme, justement, effectivement, où on nous montre des choses idéales, parfaites, mais profondément ennuyeuses.
Les philosophes politiques auparavant ont perdu aussi cette bataille sur le fait de critiquer le dogme du parti, avec, il me semble que c'est en 26 que dans le congrès du Parti communiste russe, il y a la fin de la double négation n'est plus marxiste. Le fait que en fait, la culture hegelienne est complètement enlevée du marxisme pour au final ne laisser qu'un dogme. Et du coup, tu parlais d'idéologie, mais au final, c'est plus un dogme. Parce qu'une idéologie peut évoluer, on peut la critiquer. Le dogme reste figé dans le marbre, en fait.
Ça rejoint un débat qu'on a en ce moment dans la science-fiction autour de la dystopie et de l'utopie, puisqu'il y a quand même une explosion de la dystopie. Et si on regardait de près, ce serait intéressant de regarder si elle ne date pas de la chute du mur. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que la fin de la révolution d'octobre, on pourrait dater cette date-là, entraîne dans la science-fiction française, mais aussi américaine, une explosion de la dystopie, parce que les lendemains qui chantent sont officiellement morts. On a ce débat aujourd'hui de savoir si on n'a pas fait trop de dystopie, parce que quand on faisait la dystopie, il y avait l'idée évidemment de montrer les mauvais chemins, donc parler du chemin, évidemment. Alors que dans l'utopie, il y avait souvent ce soupçon de la naïveté de dire ça va être génial. Et de finalement de tomber dans le cucul à praline. Mais aujourd'hui, on a toutes ces discussions entre le désincarcéré et le futur de Damasio, ce genre de choses. Voilà, où on a avec cette dystopie qui est vraiment la conséquence probablement de la fin de l'idéologie, de ce monde sans histoire qu'on nous avait promis pendant quelques décennies avec la fin de l'histoire et ce genre d'idées. On rejoint vraiment cette question-là, et je pense que c'est pas. On pourrait vraiment lier la dystopie et la révolution comme étant les deux facettes de même problématique. Quand on ne pense plus pouvoir faire la révolution, quand on pense que non seulement on ne fera pas la révolution et que ce qu'on promettait la révolution, on ne l'atteindra pas, alors on tombe dans un pessimisme réel, dystopique, et c'est sans doute ça que voulait éviter le régime, craignant que ce chemin dystopique soit le signe de la fin de la révolution. Quoi.
Mais ce lien, il existe, il est très clair, il est historique. Mmh. Victoria et moi avons publié tout récemment sur la revue Res Futurae un petit article justement sur les sources de la dystopie. La principale source considérée actuelle, c'est nous de Zamiatine, qui est à la base de 1984, du Meilleur des mondes de Huxley, et puis donc du coup de quasiment toutes les autres. Mais à la base du roman de Zamiatine, il y a les essais d'un membre du Proletkult, qui était Alexei Gastiev, qui était poète, auteur de science-fiction, il faisait des poésies de science-fiction, et en même temps, il était syndicaliste ouvrier. Ce monsieur, il était formé notamment lors d'un passage chez Renault à Paris. Il a travaillé pendant presque 2 ans. Et là, il s'est mis en tête les idées du taylorisme et du fordisme. Et après la Révolution, il a voulu les appliquer. Et donc, pour lui, l'idée, c'était de transformer l'homme en machine, notamment l'ouvrier en machine, pour en faire une pièce d'une machine plus grande qui est la société. Et il partait du principe que l'ouvrier avait une psychologie uniforme, que d'un ouvrier à l'autre, on pensait de la même manière, que finalement, si l'ouvrier portait un numéro, un matricule plutôt qu'un nom, il en serait encore plus efficace. Et donc, c'est lui, en 1919, qui a proposé, dans un essai, de remplacer les noms des ouvriers par des matricules. Et dans la foulée, il a créé, avec le soutien de Lénine, un institut d'études du travail. Alors, dans cet institut, on y a créé des tas de choses très diverses. Il y a des choses très bonnes sur l'ergonomie du travail, puis d'autres, par contre, qui sont particulièrement effrayantes. Bon, Gastief, il a fini fusillé en 1938. Mais ces idées ont provoqué un tel choc qu'il y a eu plusieurs réponses littéraires. Une d'Alexei Tolstoï, qui n'était pas encore rentré en URSS à l'époque. Une autre d'Alexandre Kouprine, qui lui était déjà parti en exil et qui décrit en quatre courtes pages le contenu entier de Nous de Zamiatin, sauf que lui, il l'a publié en 21. Et puis, il y a Nous. Donc voilà, on part d'une proposition d'un type qui était poète de science-fiction, mais une proposition qui se voulait réaliste, et on en arrive, en fait, à la clé de la plupart des dystopies modernes. Le lien, il existe, ouais. Et en même temps, dans les migrations russes de l'époque, on a des quantités d'œuvres qui sont, pour certaines des dystopies, pour d'autres des utopies, on a un boom de la littérature de science-fiction russe dans les migrations, avec beaucoup de romans. Et là, on a une... Ouais, le lien, il existe, clairement.
Ah, dommage de... Hélas, il ne reste que 3 minutes... d'aller de la révolution d'octobre au lendemain qui déchante, mais c'est ainsi. Donc si le public a des questions.
Oui, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, c'est pour Denis Bajram. Je suis ici. j'aurais voulu savoir si dans Universal War, il y avait des inspirations un peu de l'iconographie ou de l'histoire soviétique. Il y a un truc qui m'a frappé, on parlait de Che Guevara tout à l'heure, quand il parlait de l'homme nouveau, il parlait de l'homme qui se souvient, et il y a tout un truc dans votre œuvre avec l'homo memor, etc. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ma deuxième question, peut-être un peu plus générale, c'était sur des héritiers actuels de la révolution d'octobre, entre guillemets, c'est la Chine, qui débarque en grande pompe, entre guillemets, dans le milieu de la science-fiction, alors même s'ils y sont depuis un moment, mais du moins ça arrive en Occident aujourd'hui. Et on les voit aussi dans des films, certes américains, toujours représentés, mais ce coup-ci avec un côté positif, alors que c'est un régime communiste pour l'impérialisme américain toujours actif. Comment vous analysez un peu cette place de la Chine dans la science-fiction aujourd'hui ? Merci.
Sur Universal War, je vais faire très vite. Je présente quand même une société qui est ultra-libérale économique, mais au sommet même de l'impérialisme économique, de toutes ces notions-là, du capitalisme totalement sauvage, et qui est ultra sécuritaire au point que les forces policières portent des uniformes ostensiblement nazis. Donc je ne cache pas que c'est le capitalisme nazi. Donc inévitablement, en face, des réponses portent inévitablement des valeurs qui viennent aussi du marxisme et toutes ces choses-là. Alors c'est un étrange mélange que je fais de marxisme et de mysticisme, ce qui donc est un mélange incompatible, à mes yeux en tout cas. Mais justement parce que
un bon coup de dialectique et ça passe.
Voilà. Hein. Mais surtout parce que le fondateur de cette nouvelle civilisation qui veut répondre à ça, je lui ai donné mes connaissances, c'est-à-dire quand même quelques doutes sur la solution marxiste pure, puisqu'elle a plusieurs fois été essayée et malheureusement, pour des raisons humaines, trop humaines, échouée. Et l'impression que l'avenir scientifique pur n'est pas une solution et qu'il faut l'accompagner de poésie et de distorsion pour que l'humain puisse l'habiter. Voilà. Donc,
c'est un peu un marxiste malgré lui et presque un anti-Lénine puisqu'il fait une révolution sans l'avoir voulu et en étant ailleurs dans le temps, tout en l'auteur, dit-il, produisant la société la plus juste et la plus égalitaire
possible
de tous les temps.
Oui.
Quand même. les Chinois d'abord sont aux utopiales puisqu'on accueille une équipe de Shenzhen qui est à l'origine d'un festival de science-fiction là-bas. Ils écrivent de la science-fiction avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans un pays comme la Chine. Mais je crois que dans les ambivalences de la Chine, il faut être très attentif à ce qu'ils sont en train de réaliser de très mauvais et en même temps la capacité à réparer un certain nombre d'erreurs, à mettre en œuvre une transition écologique, on verra dans 20 ans. mais avec énormément de moyens, beaucoup plus que nous, de partir à la conquête de l'espace en attribuant des budgets beaucoup plus importants que ce qui se fait en Europe, et avec des projets comme la nouvelle route de la soie qui sont assez impressionnants. Alors on verra tout ça, l'histoire répondra. Moi je crois en tout cas, puisque je crois qu'on doit s'arrêter, mais qu'il y a un caractère révolutionnaire dans la science-fiction, dans la mesure où il y a toujours la dénonciation d'un état de fait et la possibilité d'y revenir et d'en changer, qui est apparue d'ailleurs chez les cyberpunks un peu avant la chute du mur de Berlin dans les années 80, avec des pays de l'Est figés. Je crois qu'il y a même une nouvelle de Gibson où il y a des soviétiques perdus dans l'espace sur une station. Et par contre, la dénonciation du monde qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire des multinationales qui dirigent le monde, le pouvoir financier qui dirige le monde et le pouvoir politique qui perd la capacité révolutionnaire. Donc je crois qu'on est aussi en mal de révolution de notre siècle et de notre temps.
Eh bien, un grand merci et à nos invités. Et on les attend en dédicace à la librairie. Merci.